Le journal présenté par Inès Lorangopo. Inès, bonjour.
Bonjour Nina Vertiano, bonjour à tous. Au sommaire, le tribunal administratif a annulé le fait de l'arrêté augmentant le prix des cartes d'identité nationale et les titres de séjour par la société Almatina. Précision au début de ce journal. Jonas Israël Dago n'est pas candidat du mouvement pour la démocratie et le développement de l'ancien chef de l'État David Dago, à suivre le porte-parole du MDD. Et puis le programme des Nations Unies pour le développement continue d'appuyer le processus électoral en République centrafricaine. Il a remis hier à l'ANU des équipements de travail. En sport, Scrabble, la République centrafricaine a été éliminée en quart de finale de la Coupe des Nations classiques francophones, 2-3 devant le Congo Brazzaville.
Inès, ça y est, le tribunal administratif a tranché dans l'affaire Thierry-Georges Vacatte contre le ministère de la Sécurité publique.
Par sa décision, il a annulé l'effet de l'arrêté conjoint augmentant le prix des titres de séjour, carte d'identité nationale par la société Almadina. C'est la substance du délibéré rendu ce matin au tribunal administratif de Bangui. Jean-Fernand Kouina nous fait le récit de cette décision.
La décision du tribunal administratif est sans appel et se repose sur la hiérarchie des normes. Il ordonne le sursis à exécution de l'arrêté conjoint du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Finances. Le magistrat Georges-Michel Anibier ne sort pas de la trajectoire du commissaire du gouvernement Gervais Vouimakwa.
Considérons que l'examen minutieux et comparatif des dispositions de l'article 9 de la loi des finances et l'article 1er de l'arrêté interministériel, il en ressort que le prix des documents administratifs sécurisés ont été excessivement majorés par l'arrêté querellé, ce qui constitue une violation flagrante de la loi. Que cette violation de la loi est caractérisée par la méconnaissance et l'inapplication des termes de l'article 9 de la loi des finances, modificatif par le ministre de la Sécurité publique et par son homologue des finances. Considérant que le principe de la hiérarchie des normes, qui implique aussi celui de la légalité des actes administratifs, tend à ce que chaque acte administratif, sur sa validité, de la norme puisse être directement supérieur, que l'administration dans son processus décisionnel et de production normative a l'obligation d'observer scrupuleusement ce principe de la hiérarchie des normes.
Loin de jubiler face à cette victoire du droit, le député Thierry-Georges Vacatte exprime le sentiment du sens du devoir.
Lorsqu'on touche la justice, c'est pour obtenir un jugement. Nous avons fait que notre devoir, celui de protéger les Centrafricains. Car l'Assemblée a voté une loi, les ministères ont violé la Constitution, ont violé des textes internationaux. Dès lors, ce n'est rien que justice. Il n'y a aucun triomphalisme.
Le tribunal a noté que l'arrêté querellé est arbitraire et porte préjudice à l'ensemble des citoyens centrafricains et aux étrangers. Moralité, les Centrafricains doivent désormais payer ces documents conformément au prix fixé par la loi des finances et non l'arrêté conjoint désormais sur la poubelle de l'histoire.
Jean-Fernand Kouina sur Radio Ndekeluka.
Le Mouvement pour la démocratie et le développement MDD apporte des précisions sur la candidature de Jonas Israël Dago.
Vous vous souvenez, nous avons diffusé sur nos ondes en fin de la semaine dernière que le fils de feu président David Dago est candidat à la présidentielle du MDD. Au micro de Ren Fabien Dotiga, Vénon Gabriel Batapamita, porte-parole du MDD, indique que Jonas Israël Dago n'est pas candidat du MDD, il est indépendant.
Le parti marche très très bien, il se fait mouiller les maillots, comme tous ceux qui sont là. Nous n'avons pas de candidats aux élections présidentielles. Ceux qui peuvent avoir l'occasion d'aller aux élections soit législatives et présidentielles ne peuvent que être à part entière membres de ce parti. Il n'est pas adhérent de ce parti. Il a dit qu'il partait comme candidat indépendant. Parce qu'à partir du moment où nous avons signé avec le MCU, on ne peut pas prendre Jonas. Il s'est réveillé 13 ans plus tard.
Sur Radio Ndekeluka, le journal se poursuit toujours. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD continue d'appuyer le processus électoral en République centrafricaine.
Pour l'établissement des listes électorales, le PNUD a remis ce jeudi à l'ANU des équipements d'imprimerie de grande capacité composés de 5 duplicopieurs, des accessoires et un véhicule de marque Land Cruiser 4x4. Bernard Bongaba, vice-président de l'ANU, exhorte l'équipe technique à faire bon usage. Il est au micro de Maxime Lalaye.
Ce que nous demandons à nos collaborateurs qui travaillent ici, c'est de bien veiller et de faire bon usage de ces matériels. Car en cas de mauvaise utilisation, nous serons dans l'impossibilité d'en acheter. Si nous avons bien travaillé hier et que cela a marché, comme à l'issue des élections passées, où certaines personnes ayant visité nos services ont constaté que les équipements sont restés en bon état, cela prouve que nous sommes des travailleurs et conservateurs. Nous voulons que cela soit ainsi pour cette année. Nous remercions les Nations Unies, notamment le Japon, pour ce véhicule et pour ses outils de travail.
Le coût global de ce don s'élève à 550 000 dollars, soit environ 350 millions de francs CFA sur financement du Japon.
À Bouya, dans la Haute-Côte, 140 chefs de quartier, groupes coutumiers et religieux sensibilisés sur le processus électoral.
C'était du 27 août au 2 septembre une initiative de l'Institut Enabel avec l'appui de l'Union européenne. Objectif, enseigner aux participants leur rôle pour favoriser la participation massive de la population aux élections de 2020-2021. Les détails avec Gasmala Mustapha.
1640 chefs sont venus des différents quartiers de la ville et des villages périphériques de Bria. Ils ont été sensibilisés durant 3 jours sur le rôle que doit jouer un chef avant et pendant les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020. Félicité Ko, présidente du réseau des femmes ministres et parlementaires.
Nous travaillons avec les plateformes de toutes les religions qui sont ici au niveau de Bria et les chefs de quartier, les chefs de groupe et les sensibiliser sur l'impact de s'inscrire sur les listes électorales, les sensibiliser sur l'impact de retirer leurs cartes quand les cartes seront disponibles et l'impact d'aller voter qui est fondamental si nous voulons vraiment un changement réel, un changement dans notre pays. Chaque citoyen, chaque Centrafricain doit se lever et doit aller voter.
Eli Mandazui, chef de groupe du quartier Piango, se dit prêt à vulgariser ses messages et appelle déjà la population à se mobiliser pour ces élections à venir.
Nous avons sensibilisé la population d'aller s'enrouler sur la liste électorale. Ils ont fait ça. Et aujourd'hui, nous sommes sur la phase des cartes électorales. Donc, nous allons revenir toujours sensibiliser la population d'aller massivement retirer leurs cartes et aller voter massivement leurs députés ou leurs présidents pour le développement de notre pays.
Cette campagne de sensibilisation qui a pris fin ce 2 septembre à Bria Centre va se poursuivre dans la sous-préfecture de Ouada. Bria, Gasmala Mustapha, Radio Dekeluka.
Mettre fin à toutes les formes d'exploitation des enfants, c'est l'un des objectifs recherchés par le ministère du Travail.
Le département a formé 35 inspecteurs sur la lutte contre le travail des enfants, une formation de 3 jours pour renforcer leurs connaissances afin d'identifier les différentes formes de maltraitance des enfants. Eloi Sylvestre Bitendi, directeur de l'insertion et de la réinsertion sociale des enfants au ministère des Affaires sociales, un des formateurs au micro de Francis Clavercala.
Les participants qui ont bénéficié de cette formation seront des formateurs qui devront se déployer sur le terrain et diffuser à plus large échelle ce qu'ils ont appris ici en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants, qui est un élément constitutif de la traite des personnes. Regardez juste autour de vous, quand vous voyez dans la ville une petite fille qui a peut-être 12 ou 13 ans, orpheline certainement, ou ramenée de quelque province que ce soit par un parent qui se dit plus nanti, et qui au lieu de se retrouver dans les salles de classe, vous la voyez du matin au soir avec un lourd fardeau, traverser les quartiers soi-disant pour vendre, alors qu'elle ne tire pas profit et que cela profite à une grande personne. Pour aller un peu dans les provinces, vous allez voir, surtout sur les chantiers miniers, des enfants qui descendent à des profondeurs où leur constitution physique et leur capacité de résistance ne leur permet pas normalement de supporter les variations dues à l'absence d'oxygène sur le fleuve. Des petits enfants en pirogue qui traversent le fleuve là, qui vont plonger à des profondeurs à la recherche du sable pour le compte de quelqu'un. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut veiller, dont il faut faire attention.
Dans la suite de cette édition, cette préoccupation du ministère de la Santé sur la prise en charge gratuite des patients souffrant de maladies non transmissibles en cette période de Covid-19.
Pour Dr Pierre Somsé, chef du département de la Santé, le gouvernement est à pied d'œuvre pour venir en aide à ces personnes affectées par les maladies telles que trépanocytose, diabète, asthme, insuffisance cardiaque ou hypertension artérielle. Dr Pierre Somsé est au micro de Reine Fabienne Doutiga.
D'après une enquête que nous avons réalisée avec l'appui de l'OMS, il ressort que ces maladies montent en puissance, qu'elles sévissent désormais dans tous les âges. le défi que pose cette maladie devient double dans le contexte du Covid. Ceci étant, l'un de nos principaux objectifs est de limiter la mortalité due au Covid. Cette relecture des documents nous permettra de renforcer la prise en charge des maladies non transmissibles, d'étendre notre stratégie de lutte contre le Covid aux personnes qui souffrent de ces maladies, leur faciliter l'accès au traitement. Les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, de diabète, d'asthme, l'un de leurs principaux problèmes, c'est l'accès au traitement. D'instaurer une gratuité ciblée dans le cadre de la lutte contre le Covid afin que leur pauvreté ne soit pas un facteur de plus de mortalité.
Santé toujours, le ministère de la Santé a annoncé hier 17 nouvelles contaminations de Covid-19.
Ce qui porte le nombre des malades à 4729, dont 1807 guéris et 62 décès. Le monde a désormais franchi la barre des 28 millions de contaminations et plus de 864 000 morts.
Actualité hors du pays, Inès, au Cameroun, les civils de Bamenda sont victimes des combats entre séparatistes et forces de l'ordre.
Depuis ce mardi, des violences ont éclaté entre les forces de l'ordre et les séparatistes à Bamenda, capitale de la région anglophone camerounaise du nord-ouest. Selon certaines ONG, la population locale est prise entre deux feux.
Et puis l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta se porte bien et a regagné son domicile après son hospitalisation.
Ibrahim Boubacar Keïta a été hospitalisé mardi 1er septembre dernier. Ses proches affirmaient qu'il s'agissait d'un contrôle médical de routine, mais dans la soirée de mercredi, on a appris que Ibeka avait fait un accident ischémique transitoire, une forme d'AVC. Il a finalement regagné son domicile jeudi soir. La page sport, c'est avec vous. Bienvenue Bello, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
En sport, Scrabble, le Congo Brazza met un terme au parcours historique de la République centrafricaine.
C'était hier en dernier match des quarts de finale de la Coupe des Nations du Scrabble classique francophone. Première compétition de Scrabble organisée en ligne sur 5 matchs. Les Congolais ont remporté 3 victoires contre 2 côtés centrafricains. Le Congo se qualifie donc pour la demi-finale et va affronter demain le Sénégal. Le premier match de demi-finale oppose ce soir la France à l'Algérie.
Changeons de discipline du basketball, c'est une bonne nouvelle pour les amoureux de ce sport. Un camp de jeunes sera organisé dans le 7e arrondissement de Bangui.
Effectivement, Inès, le lancement des activités est prévu demain à partir de 15h sur le terrain du lycée d'État des Rapides. Les filles et garçons âgés de 7 à 18 ans sont appelés à s'inscrire. Les activités vont durer un mois, donc du 5 septembre au 3 octobre 2020. Malgré les restrictions dues au coronavirus, la formation des enfants est le but recherché par ce camp, selon le coach Claudio Pedro, l'un des initiateurs.
Par rapport à l'évolution du basketball, par rapport à ces crises, de ces confinements, comment les enfants sont restés à la maison et tous les enfants sont confinés, je vois que ça joue aussi sur le basketball centrafricain. Si nous laissons les enfants comme ça, y compris les joueurs fédérales, que ce soit les joueurs de la Ligue, sont tous à la maison presque 6 mois, 7 mois, vraiment ça joue principalement dans notre basketball centrafricain. On a pris encore une mesure de commencer à initier les enfants, des enfants qui ont envie de jouer et qui ont envie d'apprendre le basketball, principalement dans le 7e arrondissement à Wango. Il y a beaucoup de participation de coachs, principalement comme le coach Marita Gabin, y compris aussi le coach national Johnny Madozé et le coach national d'Arlon de BAC et aussi le coach national coach Babylon de Nutec.
Par ailleurs, Claudio Pedro appelle les parents à venir inscrire massivement leurs enfants.
Pour le moment, nous demandons les familles de basketball, les gens de bon cœur, de bon foi, les gens qui ont l'amour du basketball, d'amener toutes leurs aides. C'est pour l'avancement du basketball. Pour le moment, nous avons eu seulement un petit appui de la fédération du côté du ballon et ça nous fait un plus, mais ça manque encore des aides. Les enfants ont besoin de l'eau, lavage des mains, des cache-nez, tout ça. Ça nécessite encore beaucoup des aides, beaucoup de financements aussi. Et nous demandons à tous les parents du 7e, à tous les gens qui aiment le basketball, d'envoyer leurs enfants le 5 sur le terrain du lycée d'État de Rapides à partir de 15h jusqu'à 17h pour les inscriptions et le démarrage du camp de basket.
Le terrain est dans un état très dégradé. Comment ça va se faire?
Bon, nous ferons un effort de nous-mêmes quand même de rétablir les minimums conditions pour que les enfants puissent avoir ce travail dans de bonnes normes de conditions de basketball.
Claudio Petro, des propos recueillis par vous. Bienvenue Bello. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Restez branchés pour la version en langue nationale après cette courte pause.